Chapitre 85. Englouti par le ciel. Mais qui est le vagabond, l'élément solitaire, celui dont les paroles n'ont aucun sens? Quand j'entrevois ce qu'il sous-entend, le monde s'ouvre à moi. J'ai un mouvement de recul. Impossible. Vraiment? Extrait du diagramme. Psaume des miracles du mur ouest. Paragraphe 8. Note d'Adrotagia. Pourrait-il s'agir d'une référence à Mrez? Elle n'a pas précisé si elle était capable d'ouvrir la voie? Demanda Dalinar tout en marchant vers la tente de commandement. La pluie martelait le sol autour de lui, si dense qu'il ne distinguait plus les trombes charriées par le vent à la lumière aveuglante des projecteurs fabriaux de Navani. Le moment de courir aux abris était depuis longtemps passé.
« Non, Clarissime, » répondit Pete, l'homme de pont. « Mais elle a bien insisté sur le fait que nous ne pouvions pas affronter ce qui se dirigeait vers nous, deux tempêtes majeures. »«
Comment peut-il y en avoir deux ?» s'enquit Navani. Elle était trempée de la tête aux pieds malgré sa cape robuste, car le vent avait depuis longtemps emporté son parapluie. Royon marchait de l'autre côté de Dalinar, barbe et moustache ramollies par l'eau.
« Je n'en sais rien, Clarissime, » répondit Pete. Et c'est ce qu'elle a dit, une tempête majeure et quelque chose d'autre. Elle appelait ça une tempête éternelle. Elle prévoit qu'elles vont entrer en collision précisément ici.
Dalinar y réfléchit. La tente de commandement ne se trouvait qu'un peu plus loin. Une fois à l'intérieur, il parlerait à ses commandants sur le terrain et... La tente de commandement trembla, puis une bourrasque l'arracha du sol. Traînant cordes et piquets dans son sillage, elle passa devant Dalinar, presque assez près pour qu'il la touche. Il jura, tandis que la lumière d'une dizaine de lanternes, autrefois contenues dans la tente, se répandait sur le plateau. Scribes et soldats se précipitèrent pour tenter de rattraper les cartes et les feuilles, dont la pluie et le vent s'emparaient.
« Bourrasque !» s'exclama Dalinar en tournant le dos à ce vent puissant. « J'ai besoin qu'on m'informe de la situation !»«
Mon général !» Le commandant Kael, chef des commandants sur le terrain, s'approcha en courant, suivi par son épouse, Appara. Les vêtements de Kael étaient encore pratiquement secs, mais ça ne durerait pas.
Aladar a reconquis son plateau. Appara est en train de composer un message pour vous.
Vraiment ? Le Tout-Puissant bénisse cet homme. Il avait réussi.
Oui, mon général,
confirma Kael, qui devait crier pour couvrir le bruit du vent et de la pluie.
Le haut prince Aladar a déclaré que les Parchendi qui chantaient sont tombés très vite, qu'ils se sont laissés massacrer. Les autres ont pris la fuite. Même avec la chute du plateau de Royon, la victoire du jour est à nous.
Je n'ai pas cette impression, cria Dalinar en réponse.
Quelques minutes plus tôt, les chutes de pluie étaient encore légères. La situation se dégradait rapidement.
Envoyez tout de suite des ordres à Aladar, à mon fils, ainsi qu'au général Kal. Immédiatement au sud-est, il y a un plateau parfaitement circulaire. Je veux que tous nos hommes s'y déplacent et se préparent à la venue d'une tempête.
Entendu, mon général,
répondit Kael en saluant, le poing contre son manteau. De l'autre main, il désigna toutefois l'épaule de Dalinar.
Mon général, vous avez vu ça?
Dalinar se retourna vers l'ouest. Une lumière rouge clignotait. Et des éclairs tombaient sans cesse. Le ciel lui-même paraissait se contracter, tandis que quelque chose s'y accumulait, tourbillonnant en une énorme cellule orageuse qui se déployait rapidement vers l'extérieur.
« Par le Tout-Puissant !» chuchota Navani.
Non loin de là, une autre tente trembla, ses piquets arrachés.
« Laissez les tentes, Kael !» lui lança Dalinar. « Faites avancer tout le monde, tout de suite !»
Navani, allez rejoindre la Clarissime Shallan. Aidez-la, si vous le pouvez.
L'officier s'éloigna avec empressement et se mit à crier des ordres. Navani l'accompagna et disparut dans la nuit, suivi par une escouade de soldats qui accourut pour lui fournir une protection.
« Et moi, Dalinar ?»
demanda Royon.
« Nous allons avoir besoin que vous preniez le commandement de vos hommes et que vous les conduisiez en lieu sûr,
répondit Dalinar. « Si c'est seulement possible. » La tente toute proche trembla de nouveau. Dalinar fronça les sourcils. Elle ne semblait pas bouger avec le vent. Et puis, était-ce des cris qu'il entendait, là? Adeline traversa violemment le tissu de la tente et dérapa sur le dos le long des pierres tandis que la flamme s'échappait de son armure. « Adeline !» s'écria Dalinar en se précipitant vers son fils. Il manquait plusieurs segments à son armure. Adeline leva la tête en serrant les dents, le nez en sang. Il prononça quelques mots, mais le vent les emporta. Plus de casque, plus de canon d'avant-bras gauche, plastron fendu presque au point de se briser, jambe droite exposée. Qui avait pu infliger de tels dégâts à un porte-éclat? Dalinar comprit aussitôt la réponse. Il prit Adeline dans ses bras, mais regarda au-delà de la tente effondrée. La tempête la secoua et l'emporta tandis qu'un homme la dépassait, luisant de traînées tourbillonnantes de fulgiflammes. Très étranger, vêtements entièrement blancs que la pluie collait à son corps, tête chauve baissée, yeux masqués par les ombres mais brillants de fulgiflammes. Le meurtrier de Gavilar. Seth, l'assassin en blanc.
Shallan parcourut les inscriptions sur le mur de la pièce circulaire, cherchant désespérément un moyen de faire fonctionner la porte du pacte. Il fallait que ça marche. Il le fallait. Tout est rédigé en chant de l'aube, commenta Inadara. Je n'arrive pas à déchiffrer quoi que ce soit. Les chevaliers radieux sont la clé. L'épée de Renari n'aurait-elle pas dû suffire? Quel est le motif? Murmura-t-elle. Répondit Motif. Peut-être ne le vois-tu pas parce que tu es trop proche. Comme pour les plaines brisées, Shallan hésita, puis se leva et se dirigea vers le centre de la pièce, où les représentations des chevaliers radieux et de leur royaume se rejoignaient au niveau d'un point central. Clarissime Renarine, demanda Inadara. Quelque chose ne va pas? Le jeune prince était tombé à genoux et se tenait recroquevillé près du mur. « Je le vois !» répondit Renarine d'une voix fébrile qui résonna dans l'espace. Les ardents occupés à étudier une partie des fresques levèrent la tête pour le regarder. « Je vois l'avenir lui-même. Pourquoi ? Pourquoi, tout-puissant ? Pourquoi m'avoir maudit ainsi ?» Il laissa échapper un hurlement suppliant, puis se leva et abattit quelque chose contre le mur. Une pierre ? Où l'avait-il trouvée ? Il la serra dans son gantelet et se mit à écrire. Stupéfaite, Shallan avança d'un pas vers lui. Une série de chiffres, rien que des zéros. « C'est arrivé !» murmura Renarine. « C'est arrivé ! C'est arrivé ! C'est arrivé ! Nous sommes morts ! Nous sommes morts !»
Dalinar serrait son fils contre lui sous un ciel en train de se briser. La pluie nettoyait le sang du visage d'Adeline, et le garçon cligna des yeux, hébété de s'être débattu. « Père, » dit Adeline. L'assassin s'avança en silence, sans empressement apparent. Il semblait glisser sous la pluie. « Quand tu régneras sur la principauté, mon fils, » lui dit Dalinar, « ne te laisse pas corrompre, ne joue pas à leur jeu, gouverne. » « Ne suis pas. »« Père !» s'exclama Adeline tandis que ses yeux faisaient le point. Dalinar se leva. Adeline bascula à quatre pattes et tenta de se lever, mais l'assassin avait brisé l'une de ses jambières, si bien qu'il lui était presque impossible de le faire. Le garçon se laissa de nouveau glisser dans la flaque d'eau naissante. « Tu as été bien formée, Adeline, » dit Dalinar, regard braqué sur l'assassin. « Tu es un meilleur homme que je ne le suis. J'ai toujours été un tyran qui devait apprendre à devenir autre chose. Mais toi, tu es un homme de bien depuis le départ. Dirige-les, Adeline. Unis-les. » « Père !» Dalinar s'éloigna de son fils. Non loin de là, scribes et serviteurs, capitaines et soldats, criaient et s'affairaient, cherchant à trouver l'ordre dans le chaos de la tempête. Il suivait la consigne d'évacuation de Dalinar, et la plupart n'avaient pas encore remarqué la silhouette en blanc. L'assassin s'arrêta à 10 pas du haut prince. Royon, blême et bégayant, s'écarta d'eux en reculant et se mit à crier.
« Assassin ! Assassin !»
La pluie s'adoucissait un peu, en réalité. Ça n'apportait guère d'espoir à Dalinar. Pas avec ses éclairs rouges à l'horizon. Était-ce là un mur de la tempête à l'avant de la nouvelle ? Les efforts visant à interrompre les Parchendi n'avaient pas suffi. Le Chinov n'attaqua pas. Il se tenait immobile face à Dalinar, inexpressif, le visage ruisselant. Un calme surnaturel l'habitait. Dalinar était nettement plus grand et plus large. Ce petit homme en blanc, avec sa peau si pâle, semblait un gringalet en comparaison. Derrière lui, la confusion noya les cris de Royon. Cependant, le pont 4 accourut pour entourer Dalinar, lance à la main. Il leur fit signe de reculer. « Vous ne pouvez rien faire, messieurs, » leur dit-il. « Laissez-moi l'affronter. » 10 battements de cœur. « Pourquoi ?» demanda-t-il à l'assassin, qui se tenait toujours immobile sous la pluie. « Pourquoi avoir tué mon frère ? Vous ont-ils expliqué le raisonnement qui guidait leurs actes ?»« Je suis 7 fils Valano, » répondit l'homme d'une voix rude, « avérite de Shinovar. Je fais ce qu'exigent mes maîtres, et je ne demande pas d'explication. » Dalinar révisa son jugement. Cet homme n'était pas calme. Il donnait cette impression, mais lorsqu'il parlait, c'était avec les dents serrées, les yeux un peu trop écarquillés. « Il est fou, » songea Dalinar. « Sainte bourrasque. »
« Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » lui dit-il. « Si c'est une question d'argent... »«
Ce qui m'est dû !» cria l'assassin, tandis que l'eau de pluie s'écoulait de son visage et que la fulgiflamme s'échappait de ses lèvres. « Finira par m'être donné. Dans son intégralité, je m'y noierai, marchepierre. » Seth tendit la main vers le côté, et sa lame d'éclat y apparut. Puis, avec un geste brusque et condescendant, comme s'il ne faisait que retirer un bout de nerf de sa viande, il s'avança d'un pas énergique et visa Dalinar. Ce dernier intercepta la lame à l'aide de la sienne, qui apparut dans sa main levée. L'assassin regarda brièvement l'arme de Dalinar, puis sourit, lèvres pincées, dévoilant à peine ses dents. Ce sourire avide, assorti à ses yeux hagards, était l'une des choses les plus maléfiques que Dalinar ait jamais vues. « Merci, » dit l'assassin, « d'avoir prolongé ma souffrance en refusant de mourir facilement. » Puis il recula et se retrouva entièrement consumé par un éclat de lumière blanche. Il fondit sur Dalinar avec une vitesse inhumaine. Adeline jura en s'arrachant à son hébétude. Bourrasque, que sa tête lui faisait mal. Elle avait reçu un coup violent quand l'assassin l'avait jeté au sol. Son père combattait Seth. Béni soit-il pour avoir entendu raison et s'être lié avec la lame de ce fou. Adeline serra les dents et se remit péniblement debout, ce qui était difficile avec une jambière brisée. Bien que la pluie commence à s'apaiser, le ciel restait sombre. À l'ouest, des éclairs presque constants s'abattaient sur le sol comme des chutes d'eau rouge. Simultanément, des rafales de vent soufflaient depuis l'est. Quelque chose se préparait là aussi, en provenance de l'origine. C'était grave. Ces choses que père m'a dites. Adeline tituba et faillit tomber à terre, mais des mains apparurent pour l'aider. Il jeta un coup d'œil sur le côté et trouva les deux hommes de pont d'un peu plus tôt, Scar et Drey, en train de l'aider à se lever.
« Vous deux, leur dit-il, vous allez recevoir une augmentation de toutes les bourrasques. Aidez-moi à retirer cette armure. »
À geste frénétique, il entreprit d'ôter des sections d'armure. La cuirasse entière était abîmée au point de devenir pratiquement inutile. Un fracas métallique provenait d'un peu plus loin, là où Dalinar se battait. S'il résistait encore un peu, Adeline serait en mesure de l'aider. Il n'allait pas laisser cette créature le dominer à nouveau. Hors de question.
Jetant un coup d'œil furtif pour voir ce que faisait Dalinar, il s'immobilisa net, les doigts sur les courroies de son plastron.
Son père. Son père bougeait avec une grâce magnifique.
Dalinar ne se battait pas pour sauver sa vie. Elle ne lui appartenait plus depuis des années. Il se battait pour Gavilar. Il se battait comme il regrettait de ne pas l'avoir fait des années auparavant. Il se battait pour la chance qu'il avait manquée.
Lors de cet intervalle entre les tempêtes, alors que la pluie se calmait et que les vents retenaient leur souffle pour mieux se déchaîner, il dansait avec l'assassin des rois et résistait sans savoir comment.
L'assassin bougeait comme une ombre. Son pas semblait trop rapide pour être humain. Lorsqu'il sautait, il s'élevait dans les airs. Il maniait sa lame d'éclat à la vitesse de l'éclair et il tendait parfois son autre main vers l'avant, comme pour attraper Dalinar. Se rappelant leur rencontre précédente, le haut prince reconnut là l'arme la plus dangereuse de Seth. Chaque fois, Dalinar parvint à frapper pour le forcer à reculer. L'homme attaquait depuis différentes directions. Mais Dalinar ne réfléchissait pas. Les pensées pouvaient s'embrouiller, l'esprit se désorienter. Mais ses réflexes savaient quoi faire. Se baisser quand Seth bondit par-dessus la tête de Dalinar. Un pas en arrière pour éviter un coup d'épée qui aurait dû lui trancher la colonne vertébrale. Attaquer pour obliger l'assassin à reculer. Trois pas rapides à reculons. L'épée levée pour se protéger. Frapper la paume de l'assassin quand il cherchait à le toucher. Ça fonctionna. Pendant ce bref instant, il combattit la créature. Les hommes du pont 4 restèrent en arrière, suivant ses consignes. Ils n'auraient fait que le gêner. Il survivait, mais il ne gagnait pas. Enfin, Dalinar voulut esquiver un coup d'épée mais ne parvint pas à bouger assez vite. L'assassin se jeta sur lui et lui planta son poing dans le flanc. Les côtes de Dalinar se fêlèrent. Il tituba en geignant et faillit tomber. Il frappa en direction de Seth pour le faire reculer, mais trop tard. Le mal était fait. Il s'effondra à genoux, terrassé par la douleur. Il comprit alors une vérité qu'il aurait toujours dû connaître.
Si j'avais été présent cette nuit-là, réveillé plutôt qu'assommé par le vin, Gavilar serait mort malgré tout. Je n'aurais jamais pu battre cette créature. Si j'en suis incapable aujourd'hui, je l'aurais été alors. Je n'aurais pas pu le sauver.
Cette pensée lui apporta la paix, et Dalinar reposa enfin ce rocher qu'il portait depuis plus de 6 ans. L'assassin s'avança vers lui dans un effroyable éclat de fulgiflamme. Mais une silhouette se jeta sur lui par derrière. Dalinar s'attendit à voir Adeline ou peut-être l'un des hommes de pont. Au lieu de quoi, il découvrit Royon. Jetant le dernier fragment d'armure, Adeline accourut vers son père. Il n'arriva pas trop tard. Dalinar était agenouillé devant l'assassin, vaincu, mais pas mort. Adeline criait en s'approchant, et une silhouette inattendue surgit des décombres d'une tente. Le haut prince Royon, qui tenait, détail incongru, une rapière, et menait un petit groupe de soldats, fonça vers l'assassin. Des rats auraient eu davantage de chances de vaincre un démon des gouffres. Adeline eut à peine le temps de crier que l'assassin, bougeant à une vitesse aveuglante, se retourna et trancha la lame de Royon à même la poignée. La main de Seth jaillit brusquement pour frapper Royon en pleine poitrine. Ce dernier se retrouva projeté dans les airs avec une traînée de fulgiflammes dans son sillage. Il hurla quand le ciel l'engloutit. Il avait tenu plus longtemps que ses hommes. L'assassin se glissa entre eux avec une grâce singulière, évitant adroitement leurs lances. Une dizaine de soldats tombèrent en un instant, les yeux brûlés. Adeline sauta par-dessus l'un des corps en train de s'effondrer. Nom des foudres! Il entendait encore Royon hurler quelque part au-dessus de lui. Adeline porta un coup d'estoc vers l'assassin, mais la créature se tourna pour éloigner la lame d'éclat d'une gifle. L'assassin souriait. Bien que la fulgiflamme s'échappe entre ses dents, il gardait le silence. Adeline tenta la posture de fumée,
attaquant au moyen d'une série de bottes rapides. L'assassin, imperturbable, les repoussa en silence. Adeline se concentra. Il se battait de son mieux, mais il n'était qu'un enfant face à cette créature. Royon, hurlant toujours, retomba du ciel et s'écrasa tout près, avec un répugnant craquement humide. Un rapide coup d'œil apprit à Adeline que le haut prince ne se relèverait jamais. Avec un juron, Adeline se rua vers l'assassin, mais une bâche claquant au vent, que l'assassin venait de frôler sur son passage, se jeta sur lui. Le monstre commandait aux objets inanimés. Adeline trancha la bâche d'un coup d'épée, puis s'élança pour viser l'assassin, et ne trouva rien à combattre. « Baisse-toi !» Il se jeta sur le sol tandis que quelque chose passait au-dessus de sa tête. Seth, qui volait dans les airs. La lame sifflante de l'assassin manqua sa tête de quelques centimètres. Adeline fit une roulade et se remit à genoux, haletant. Comment ? Qu'était-il capable de ? Tu ne peux pas le battre, se dit Adeline. Personne n'a jamais réussi. L'assassin atterrit avec légèreté. Adeline se releva et s'aperçut qu'il avait de la compagnie. Une dizaine d'hommes de pont se rassemblèrent autour de lui. Scar, à leur tête, lui adressa un signe de tête. « Brave soldat !» Ils avaient vu Royon tomber et se joignaient à lui malgré tout. Adeline souleva sa lame d'éclat et remarqua que son père, non loin de là, avait réussi à se remettre debout. Un autre petit groupe d'hommes de pont vint l'entourer et il les laissa faire. Adeline et lui s'étaient battus et ils avaient perdu. La seule chance qui leur restait encore était un assaut frénétique. Des cris s'élevèrent non loin de là. Le général Kahle et une grande force d'assaut, à en juger par la bannière en approche. Ils n'avaient pas le temps. L'assassin se tenait tête baissée sur le plateau humide qui séparait la petite troupe de Dalinar et celle d'Adeline. Des lanternes bleues tombées à terre les éclairaient. Le ciel était à présent aussi noir que la nuit, sauf là où les éclairs rouges le déchiraient. Cerner un porte-éclat de toutes parts. Espérer qu'un coup toucherait sa cible par chance. C'était la seule solution. Adeline adressa un signe de tête à Dalinar. Son père le lui rendit. Morose. Il savait. Il savait qu'il était impossible de battre cette créature. Dirige-les, Adeline. Unis-les. Adeline hurla et chargea, l'épée brandie, tandis que des hommes couraient avec lui. Dalinar avança lui aussi. Plus lentement, un bras en travers de la poitrine. Bourrasque, il arrivait à peine à marcher. Seth releva brusquement la tête, le visage dépourvu de toute émotion. Quand ils l'atteignirent, il bondit vers le ciel. Adeline suivit son ascension du regard. Il ne l'avait tout de même pas fait fuir. L'assassin se retourna dans les airs, puis retomba brutalement à terre, brillant comme une comète. Adeline para de justesse un coup de la lame, nourri par une force incroyable qui le projeta en arrière. L'assassin tournoya sur lui-même, et deux hommes de pont tombèrent avec les yeux brûlés. D'autres perdirent des têtes de lance lorsqu'ils tentèrent de l'embrocher. L'assassin s'arracha à la pression des corps, saignant par plusieurs plaies. Adeline vit ses plaies se refermer et le sang se tarir. Exactement comme Kaladin l'avait décrit. Terrassée par le découragement, Adeline comprit qu'il n'avait quasiment jamais eu la moindre chance. L'assassin se précipita vers Dalinar, qui se trouvait à l'arrière. Le soldat vieillissant leva sa lame, comme en signe de respect, puis porta un coup d'estoc. Une attaque. C'était ainsi qu'il fallait procéder. « Père !» murmura Adeline. L'assassin bloqua le coup, puis posa la main contre la poitrine de Dalinar. Le haut prince, dégageant une soudaine lueur, se retrouva projeté dans le ciel noir. Il ne hurla pas. Le silence tomba sur le plateau. Plusieurs hommes de pont soutenaient des collègues blessés. D'autres se tournèrent vers l'assassin et se mirent en formation d'un air affolé. L'assassin baissa sa lame, puis fit mine de s'éloigner.
« Ordure ! »
cracha Adeline en se précipitant derrière lui.
« Ordure !»
Les larmes l'aveuglaient presque.
L'assassin s'immobilisa, puis leva son arme vers Adeline. Ce dernier s'arrêta en trébuchant. Nom des foudres, que sa tête lui faisait mal.
« C'est terminé, » chuchota l'assassin. « C'est fini pour moi. »
Il se détourna d'Adeline et se remit en marche.
« Ah ça oui, la damnation m'est témoin. »
Adeline leva sa lame d'éclat au-dessus de sa tête. L'assassin se retourna et frappa si fort l'arme avec sa propre lame qu'Adeline entendit nettement quelque chose craquer dans son poignet. Sa lame dégringola de ses doigts et disparut. L'assassin tendit brusquement la main, dont les jointures frappèrent la poitrine d'Adeline. Il en eut le souffle coupé, soudain arraché à sa gorge. Hébété, il s'effondra à genoux.
« J'imagine, » gronda l'assassin, « que je peux en tuer un de plus selon mon envie. »
Puis un rictus lui étira les lèvres, un affreux sourire aux dents serrées qui lui écarquilla les yeux, comme s'il éprouvait une souffrance atroce. Haletant, Adeline attendit le coup. Il regarda en direction du ciel.
« Père, je suis désolé. Qu'est-ce que c'était que ça ?»
Il cligna des yeux en distinguant quelque chose qui brillait dans les airs et descendait en voltant, comme une feuille.
Un homme.
Dalinar. Le haut prince tombait lentement, comme s'il ne pesait guère plus qu'un nuage. De la flamme blanche s'écoulait de son corps en volutes brillantes. Près de là, des hommes de pont murmuraient. Des soldats criaient en désignant le ciel. Adeline cligna des yeux, persuadée qu'il s'agissait d'une illusion. Mais non, c'était bien Dalinar. Il ressemblait à l'un des héros en personne, descendant de la cité Sérénide. L'assassin le regarda puis recula en titubant, ouvrant la bouche d'un air horrifié.
« Non, non !»
Puis comme une étoile filante, une boule de feu étincelante de lumière et de mouvement s'abattit devant Dalinar. Elle heurta violemment le sol, diffusant un cercle de fulgiflamme pareil à une fumée blanche. Au centre, une silhouette en bleu se tenait accroupie, avec une main sur les pierres, serrant de l'autre une lame d'éclat luisante. Ses yeux brûlaient d'une lueur qui faisait en comparaison paraître étrangement ternes ceux de l'assassin. Il portait l'uniforme des hommes de pont et arborait des glyphes d'esclaves sur le front. L'anneau de lumière fumante se dissipa, à l'exception d'un large glyphe dont la forme évoquait une épée, qui s'attarda un bref instant avant de se volatiliser.
« Vous l'avez envoyé dans le ciel pour qu'il y meure, assassin !»
déclara Kaladin, dont les lèvres laissèrent échapper de la fulgiflamme. « Mais le ciel et les vents m'appartiennent !» Tout comme votre vie m'appartient à présent.